Une actu de la semaine assez chargée et symbolique. On va revenir dessus aujourd'hui à Questions d'actualité. Julien Corone au micro, Daniel Fortin à la réalisation. C'est un plaisir de vous retrouver pour terminer la semaine en ce vendredi 12 avril. Mathieu, bonjour.
Bonjour Julien.
Avec toi, on va discuter de trois grands faits dans cette actualité cette semaine. On a bien sûr le discours et la visite de Gabriel Attal au Canada et au Québec depuis hier. Il était à Ottawa hier matin et ensuite il est allé au Parlement à Québec où il a prononcé un discours assez symbolique et assez fort. On pourra revenir dessus en premier sujet et ensuite on pourra revenir aussi sur le God Save the King à Ottawa qui a fait beaucoup parler et aussi les risques à nouveau et de privatisation d'Hydro-Québec. C'est nos trois sujets de la journée. Commençons déjà sur un discours de Gabriel Attal, un discours historique, car c'est la première fois depuis François Hollande qu'un dignitaire de la France, en 2014, François Hollande prenait la parole devant les députés de l'Assemblée nationale, et un discours chargé en histoire, Mathieu.
Ben oui, tout à fait. Puis moi, d'abord, je dois l'avouer, Julien, moi j'adore les discours politiques, j'ai toujours envié le lyrisme à la française, hein. C'était beau, c'était grandiose, il y avait tout, hein, de Jacques Cartier, les voyages de Jacques Cartier, le charme de René Lévesque, jusqu'à Xavier Dolan, hein, parce qu'il y avait une touche, personnelle aussi à ce discours-là. J'ai trouvé qu'en somme, c'était vraiment un bon discours, puis j'ai particulièrement aussi relevé les propos de M. Attal par rapport à la laïcité. Oui, il y a vraiment eu des formules fortes, par exemple, que la laïcité, c'est la condition pour bien vivre ensemble. Exactement. Et c'est la condition de la liberté, la condition de l'égalité et la condition de la fraternité. Puis il était applaudi à tout rompre. Je suis d'accord avec toi, c'est un discours qui avait beaucoup de signification, puis j'ai trouvé qu'il avait une belle profondeur aussi politique et historique.
C'était aussi un discours, surtout au niveau de la laïcité, il fallait observer, pour ceux qui ont pu regarder les discours, tout le monde applaudit certes, on voyait des applaudissements plus véhéments du côté caquiste et péquiste, et des applaudissements plus parsemés, avec moins d'entrain du côté QSiste et du PLQ, et surtout moins d'entrain parce qu'il y avait aussi des bancs vides de ce côté-là, donc c'était assez c'est drôle parce qu'on voyait les fractures politiques qu'on peut avoir au Québec par rapport aux différents sujets politiques s'exprimer par le comportement en chambre des différents députés. Et ça montre que si en France, le problème est assez réglé depuis longtemps, ici, les querelles continuent, façon de parler, sur la laïcité et sur d'autres sujets.
Ben oui, absolument. Mais il faut dire aussi que M. Attal n'a pas mâché ses mots. Là. Je ne veux pas, évidemment, résumer tout ce qu'il a dit, mais il a quand même porté une certaine attaque à ceux qui ne font mine de ne pas comprendre la laïcité.
La
ou
laïcité
est la
condition de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et ceux qui font mine de ne pas comprendre quelle laïcité, qui voudraient la détourner, nous faire croire qu'elle est une forme d'arme anti-religion, faire croire qu'elle est une forme de discrimination, ils font fausse route. On parle souvent de vivre ensemble, ce terme n'est pas galvaudé. Et la laïcité est une condition pour bien vivre ensemble. On avait des propos assez immenses.
Vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Puis j'ai remarqué aussi à ce moment précis-là, on pouvait voir M. Jolin Barrette et manifestement, il était très heureux. Il était très heureux de cette formule-là. Puis j'imagine qu'effectivement, d'un certain côté de la Chambre, manifestement, ça n'a pas plu à tout le monde, mais... Bref, ça a été bien reçu manifestement par la majorité de l'Assemblée.
Un certain côté de la Chambre, et on en a parlé en préparant cette entrevue, un certain côté de la Chambre n'était pas là et on a eu, en prévision de la visite, même des bourdes. On va prendre l'exemple de Québec solidaire où le député le député de Taschereau, Étienne Grandmont, si je me souviens bien, avait pu faire une déclaration comme quoi ils sont contents de voir la France qui reprend ses rencontres alternées entre premiers ministres. Mais néanmoins, ils ont du mal à accepter la venue du Premier ministre français, car il est de droite. Et donc, c'était même de voir le logiciel QS appliqué à une venue diplomatique. Et ça fait un couac, ça fait une incompréhension. Et les députés QSistes essayent de se défendre sur le sujet depuis ce couac jusqu'à l'absence hier. Ça représente pas bien pour le parti, j'ai l'impression.
Ben exactement. On va m'accuser d'être de mauvaise foi, mais ça incarne bien le sectarisme partisan de Québec solidaire. Puis d'une autre manière aussi, l'espèce de remise en question qui est une fin pour Québec solidaire, la remise en question des institutions, c'est même le protocole diplomatique. Bon, M. Nadeau-Dubois était là, puis il a fait une allocution polie, qui n'était pas inintéressante. Mais on a vu ce matin Mme Gazal qui essayait justement de se défendre alors que justement elle était dans une activité dans la ville de Québec, là, dans le comté de Taschereau, justement.
Oui, à deux minutes.
Bon, mais c'était... Bon, c'est dommage parce que, bon, en fait, je le déplore, là, les glaces, malheureusement, avec la pluie, surtout aujourd'hui, sont fondues, mais Mme Gazal nous présentait son plus beau coup de patin parce qu'elle essaie de défendre son parti, mais bon, avec le plus d'élégance qu'elle pouvait, mais c'était pas très convaincant, à mon avis.
C'était un patinage assez, quand même, un patinage assez intéressant à voir. Et on avait du côté de cette visite qui continue. Aujourd'hui, on a Gabriel Attal qui est en visite dans les écoles. On sait que c'est l'ancien ministre de l'Éducation en France avant de devenir Premier ministre, en plus d'être le plus jeune Premier ministre de la Ve République, il a battu le record de Laurent Fabius il y a plus de 40 ans, Laurent Fabius, sous la présidence de François Mitterrand. Mais ce qui a été intéressant à voir, c'est cette question d'école, de langue française, de remise à l'avant de sujets intéressants pour faire en sorte de sauvegarder la présence de contenu en français. Donc on retrouve aussi la volonté d'utiliser une sorte de convergence culturelle francophone qui fait partie de cette relation privilégiée entre la France et le Québec pour faire avancer ses intérêts communs. Et de l'autre côté, on a Mathieu Lacombe en visite en France au Salon du Livre à Paris, parce qu'il y a une forte délégation québécoise à ce Salon du Livre cette année. Donc on voit un peu une diplomatie québécoise qui essaye de profiter peut-être d'un moment opportun pour elle et les ambitions politiques du gouvernement Legault.
Ben absolument, puis ça a été un des moments forts aussi du discours de M. Attal, puis des intérêts communs qui sautent aux yeux entre la France et le Québec, puis surtout cette lutte aussi contre l'hégémonie de l'anglais. Puis M. Attal, dans son discours, a dit que le Québec allait pouvoir compter sur la France pour s'assurer qu'il y ait des contenus culturels en français, qu'il y ait de la recherche scientifique en français, que les jeunes puissent avoir accès à des jeux vidéo en français, des produits culturels en français. Donc, moi, c'est une partie du discours que j'ai vraiment apprécié. Puis c'est là qu'on voit que, oui, on essaie de dire que, bon, la France, la relation France-Québec, c'est un peu le passé, puis bon, faudrait passer à autre chose, s'ouvrir sur le monde, mais au final, c'est qu'il y a des enjeux qui touchent manifestement les deux États, puis pour lesquels, justement, une collaboration encore plus accrue en matière de culture, je pense que serait bienvenue.
Et pas plus que cette semaine qui a montré aussi ces liens privilégiés, quand on a pu voir en chambre la réaction au rejet d'un projet de loi pour rendre le serment au roi Charles III facultatif lors de l'investiture à la députation. On sait qu'au Québec, maintenant, le serment a été enlevé au roi, c'est un serment à la nation québécoise, mais au niveau du gouvernement fédéral, ça reste, au niveau du Parlement fédéral, ça reste un serment obligatoire. Un député libéral d'origine d'Acadie qui voulait le rendre facultatif, on sait très bien qu'est-ce que la couronne britannique a fait aux Acadiens, et chose à part, le Canada ne s'est jamais excusé pour la déportation des Acadiens à la suite pendant la guerre de 7 ans. Et lors du rejet de ce projet de loi, un « God save the King » entonné par les députés conservateurs en sorte d'insultes et d'injures supplémentaires. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce qu'il n'y a pas mieux que cette semaine pour montrer les différences entre nos deux nations, canadiennes et québécoises.
Quand j'ai vu, je veux dire franchement, quand j'ai vu le titre des différents articles des médias, j'ai pensé que c'était une blague. Je trouvais ça tellement aberrant. Puis quand j'ai écouté l'extrait en question, puis j'ai entendu... Bon, les députés en chambre, surtout les députés conservateurs, ça donnait leur plus beau chant. Je me suis posé la question, est-ce que c'est un réflexe de colon ou de colonisé? Parce que pour une nation, d'une démocratie, une nation souveraine, de venir en chanter l'hymne national d'un autre État, puis je sais qu'il y a des chroniqueurs qui ont essayé de le justifier. Pour moi, c'est totalement loufoque. Puis on sait que... Puis c'est même un euphémisme, là. Les conservateurs sont pas reconnus pour l'élégance de leurs mœurs partisanes. On comprend qu'ils essaient de se moquer, tu sais, des libéraux, mais de qui? De M. Arsenault aussi. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement aberrant. Puis après ça, vous m'excusez l'expression, mais cette bande de colons monarchistes vont venir faire la cour au Québec, puis leur dire que oui, mais nous, on comprend les intérêts du Québec. J'ai trouvé ça tout simplement risible. Puis ça m'a rappelé aussi mes belles années. À l'époque, quand j'avais fait un stage... pour la mission diplomatique du Canada à l'OACI. Quand on rentrait dans le bureau, il y avait un portrait de Lisa Raitt, qui à l'époque était ministre des Transports. Si je ne m'abuse, à côté, il y avait Chris Alexander, qui était ministre de l'Immigration. Je ne sais pas pourquoi il était là. Puis à côté, il y avait un portrait de la reine. On se rappelle que dans la stratégie, c'est en 2013, dans la stratégie politique des conservateurs, il y avait aussi ramené tout ce symbolisme monarchique. Bref, on voit que dans ces circonstances-là, la vraie nature des partis politiques ressort, dont les conservateurs. Puis pour M. Trudeau, hein, qui prétend lutter contre le colonialisme des institutions fédérales, manifestement, il a sauté son tour pour cette question-là.
Et surtout, Monsieur Trudeau qui s'excuse à tout bout de champ pour tout ce que le Canada a fait de mal, et la liste est assez longue, mais qu'on ne s'est toujours pas excusé pour la déportation des Canadiens, qui est le premier, façon de parler, un des premiers génocides liés à la modernité, en sorte on déplace une population, car on la considère un peu comme imparfaite et impossible à faire évoluer. Ce genre de propos que le rapport Durham aussi avait perpétué à la suite au 19e siècle. Et ne pas avoir d'excuses pour ça et continuer avec ce genre d'insultes et d'injures telles qu'on a pu avoir en chambre, c'est quelque chose d'assez choquant. Mais ça montre aussi, quand on voit aussi de l'autre côté toute cette visite-là, est-ce que pour toi, cette semaine, au-delà, il n'y a pas eu de propos à la Charles de Gaulle, mais est-ce qu'on peut considérer que cette semaine peut permettre de continuer à remettre à l'avant-scène les narratifs politiques pour faire cette différenciation entre le Québec et le Canada, qui pourrait peut-être servir pour les élections ensuite de 2025 au fédéral, 2026 plus tard, et qui sait, un référendum ensuite?
Ben, moi, je crois que oui. Puis justement, j'ai noté les réactions un peu épidermiques des chroniqueurs, surtout ceux associés au Parti libéral du Québec. Je ne vais pas vous les nommer, là, mais ceux à la maison, si vous les reconnaissez, écrivez-nous. Mais il y en a certains qui disaient, par exemple, que au final, tu sais, le nini non-intelligence, non-ingérence, c'est juste une autre formule à la française. Hein, ça dit pas grand-chose. Puis la relation France-Québec, dans le fond, ben ça dépasse la simple question d'indépendance du Québec. Bon. J'en suis, je comprends bien. Puis pour d'autres personnes, c'était vu un peu comme un échec pour les souverainistes parce que M. Attal n'avait pas proclamé « Vive le Québec libre ». Puis Julien, en toute honnêteté, je ne sais pas si c'est de l'inculture politique ou de la mauvaise foi, mais il n'y a personne qui s'attendait à ce que M. Attal vienne proclamer ça. Puis même Paul Saint-Pierre Plamondon, dans son allocution, il y avait un petit deux minutes, il a admis lui-même. Ouais. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, il n'y avait pas beaucoup de temps pour s'exprimer, puis en venant à l'essentiel. Il a voulu rappeler, puis là, pas juste à M. Attal, mais à la fonction, au gouvernement français, que les souverainistes existent toujours, on est toujours là. Puis il a rappelé, puis a invité la France, quand les Québécois allaient se reposer la question, parce que ça allait venir, selon lui, inévitablement, que la France soit là encore pour accompagner le Québec, une fois que les Québécois auront fait ce choix-là. Donc je pense que stratégiquement, ça a été bon, puis on le sait, pour une petite formation politique en termes de députés maintenant, comme le PQ, qui a des ressources limitées, mais je pense qu'il ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité-là.
Cher Mathieu, il nous reste malheureusement le temps imparti, nous est terminé, on n'aura pas le temps de parler de privatisation et des risques de privatisation d'Isero, on en parlera la semaine prochaine au pire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathieu Castonguet, avocat et surtout analyste politique. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci Julien.
Merci à toi Mathieu. Et quant à nous, on se retrouve aussi la semaine prochaine, dès lundi, pour une suite de questions d'actualité. Passez une très belle fin de semaine aux antennes de Radio VM. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Au revoir.